Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulk.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. La curiosité est votre plus vilain défaut. Ben nous aussi, ça tombe bien, on va bien s'entendre. Au menu chaque jour, des anecdotes et des indiscrétions tout plein. Bonjour Thomas.
Bonjour Sidonie, c'est notre nouvel horaire. On est ensemble du lundi au vendredi de 14h à 15h sur RTL. Et si vous nous écoutiez le soir, vous savez qu'on aime les destins hors normes, les histoires étonnantes et les personnages extraordinaires.
Alors justement, au programme aujourd'hui.
Des super-héros parfois impressionnants, quelquefois ridicules aussi, ce sont ces hommes, ces femmes qui battent des records pour entrer dans le prestigieux Guinness. La cuvée 2018 vient de sortir, on vous révélera les records les plus dingues en primeur dans cette émission.
Et tout de suite, on choisit son bébé à la carte.
C'est dur, dur être bébé.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dur, dur d'être un bébé déjà tout court, mais un bébé choisi, fabriqué, un bébé à la carte, ça, on aimerait bien avoir la réponse, car maintenant, on peut faire son bébé à la carte, on peut choisir le sexe, la taille, la carnation, la couleur des cheveux, des yeux même, et peut-être même la qualité de l'intelligence. Bonjour Jean-François Bouvet.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
On est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité.
Moi aussi.
Vous êtes biologiste, docteur S science. Fabriquer un bébé sur mesure, c'est possible depuis quand ?
Alors, c'est possible depuis un certain temps pour certaines choses. On n'en est pas encore là pour tous les caractères que vous avez évoqués, ce qui est carnation, etc., couleur des cheveux. Mais on est très proche, par exemple, de la couleur des yeux, du choix de la couleur des yeux. Ça a déjà été fait aux États-Unis et on peut s'attendre à ce que la chose se développe extrêmement rapidement.
Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va prendre élément par élément et commencer à raconter cette histoire. Ça veut dire qu'on peut trier les humains dès le stade embryonnaire pour conserver le meilleur potentiel, c'est ça ?
Oui, alors là, ça mérite un petit mot d'explication technique. Ça fait référence donc à la fécondation in vitro, ce qu'on appelle la FIV en abréviation. Lorsqu'on fait une FIV, donc on met en présence un ovocyte et des spermatozoïdes, on obtient un œuf. Bon. Cet œuf va se diviser, il est formé d'une seule cellule. Il va se diviser en 2, puis 4, puis 8. Et au bout de 3 jours, il comporte effectivement 8 cellules. Là, à ce stade, on peut enlever, sans créer des dommages à l'embryon, une ou deux cellules et on peut les passer au crible de la génétique, c'est-à-dire voir quel est leur équipement génétique, et on peut considérer que cet embryon mérite d'être implanté ou pas. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Et c'est quelque chose qui a été mis au point pour des raisons tout à fait louables dans les années 90. Il s'agissait de supprimer donc tous les... enfin, d'empêcher de choisir des embryons qui étaient porteurs de maladies génétiques graves et incurables. Donc on les écartait systématiquement avant implantation dans l'utérus. Donc ça, ça existe en France, c'est tout à fait réglementé. Il y a 5 centres qui font ça. Donc ça s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Le problème, c'est que cette technique qui est tout à fait intéressante et respectable a un peu dérapé.
Elle a été un peu détournée. C'est comme malheureusement souvent dans l'histoire des sciences et des découvertes. C'est souvent pour une bonne cause et puis il y a des utilisations un peu, on va dire, déviantes. Alors par exemple, avec ce diagnostic préimplantatoire, c'est ce que vous racontez dans votre livre « Bébé à la carte », publié aux éditions
Équator Science.
Merci Sidonie. On peut quoi ? Déjà choisir le sexe du bébé, tout simplement ? Ça, c'est facile ?
Oui. Alors ça, c'est interdit en France, mais ça se pratique dans de nombreux pays. Ça se pratique aux États-Unis dans beaucoup d'États. Ça se pratique en Thaïlande. Ça se pratique à Chypre, dans la partie turque de Chypre, en Ukraine, etc.
Donc ça veut dire que c'est légal dans ces pays ?
C'est tout à fait légal. Vous pouvez, dans le cadre de ce diagnostic préimplantatoire, choisir le sexe de votre bébé.
Comment ça marche ? Le scientifique doit nous répondre de manière très simple. Comment on peut décider du sexe de son bébé ?
Il suffit de ne conserver que les embryons de sexe mâle ou de sexe femelle. Et ça, ça se voit tout de suite. C'est une manip génétique extrêmement simple.
Qui on n'est pas déçu alors. Enfin... On a forcément sa fille ou son garçon. Oui.
Absolument.
Si on le fait.
Absolument.
Et ça, c'est au tout début, ce que vous nous décriviez quand on a 8 cellules. C'est à ce moment-là.
Absolument.
C'est combien de temps après la fécondation ?
3 jours.
Oui, donc c'est vraiment initial.
Combien ça coûte ?
Ouais.
Alors, ça coûte de choisir son bébé ? C'est extrêmement variable, ça dépend où vous le faites. Hein, si vous le faites en République turque de Chypre, c'est pas très cher, mais ça peut atteindre des sommets. Bon, par exemple, à New York, vous avez un institut très connu, hein, qui s'appelle le New York Fertility Institute, excusez-moi pour l'accent, qui, lui, fait dans le haut de gamme, hein, et bon, on vous reçoit dans des locaux extrêmement luxueux, etc. C'est uniquement pour une clientèle très fortunée, et ça coûte, c'est marqué sur leur site, 15 000 $. C'est pas donné.
Est-ce qu'on sait s'ils choisissent plus souvent des garçons ou des filles ?
Alors, d'après le fondateur de l'Institut, les Européens, parce qu'il y a une clientèle très internationale, hein, ouais, choisissent à peu près à égalité filles et garçons. Les Chinois, en revanche, et les Indiens préfèrent les garçons. Hein, et dans des pays comme Israël, où c'est légal sous certaines conditions, on pourrait y revenir parce que c'est intéressant, là, c'est essentiellement des garçons qui sont choisis, mais pas en totalité.
Alors, on peut choisir le sexe de son enfant. Et puis, si on va plus loin, on se dit « Ah, mais je voudrais qu'il soit vraiment en pleine capacité, qu'il soit très intelligent, cet enfant. » Est-ce que c'est possible d'aller jusque-là, ou un Thomas Hugues, ou une Sidonie Bonnec, évidemment. À tout de suite, les curieux.
RTL aime la musique.
Des standards. Money,
money, mais aussi des nouveautés. We are from the north. We came
from the south. We are the nation. Et des découvertes. Quand les
souvenirs s'en mêlent. On aime la musique sur RTL.
RTL. RTL. Première radio de France.
RTL, toujours avec vous.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et dans la curiosité, la science nous réserve toujours des surprises, souvent bonnes, parfois mauvaises. Et c'est ce que l'on découvre avec notre invité, le biologiste Jean-François Bouvet, à propos des bébés à la carte. Vous nous l'avez dit, ça part d'une très belle idée, ce diagnostic préimplantatoire qui permet de détecter des maladies génétiques gravissimes. Sauf que depuis, ça a été détourné pour des raisons de business, hein, on peut dire les choses, dans certains pays, puisqu'on peut choisir le sexe du bébé, vous nous l'avez dit, Jean-François Bouvet. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Tiens, par exemple, Sidonie parlait de l'intelligence. Est-ce que ce diagnostic peut permettre à un médecin, à un scientifique, de dire « Ah, cet embryon-là, il va être plus intelligent que l'autre ?»
Pour le moment, non. Mais il y a beaucoup de gens qui y travaillent à l'heure actuelle et ouais, des moyens considérables sont mis. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de trouver les gènes de l'intelligence. C'est une vaste tâche parce qu'on estime que le nombre de gènes impliqués dans l'intelligence, les capacités cognitives, comme on dit, sont au moins de l'ordre de 1300 gènes, voire plus. Hein. Donc c'est pas du tout un problème simple. Mais en Chine, à Shenzhen, dans un laboratoire qui est extrêmement connu, qui s'appelle le BGI, hein, c'est le Beijing Genomic Institute, des chercheurs ont lancé un programme pour essayer de trouver ces fameux gènes de l'intelligence dans le but, plus ou moins avoué, de trier un jour les embryons les mieux dotés. Alors comment est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont sélectionné un panel d'environ 2000 personnes, on ne sait pas exactement à combien ils en sont, à très fort QI, supérieur à 130, ou même largement supérieur à 130, hein, et ils essayent de comparer leur ADN, hein, à celui d'individus à QI plus modeste, pour voir s'il y a des différences. Et ils espèrent trouver des différences qui leur permettront après de détecter dans l'ADN des individus et des embryons, en l'occurrence, s'ils sont potentiellement intéressants sur le plan intellectuel. Donc c'est quelque chose qui risque fort, pour employer un gros mot, de déboucher sur de l'eugénisme pur et dur.
Ah oui, ça a donné quel genre de société ? Une société qu'avec des gens intelligents dans 10 000, 20 000, 20 000 ans ?
Bah, l'eugénisme, oui, c'était le projet nazi, hein, il ne faut pas l'oublier.
Oui, tout à fait. Alors, ça risque de, à mon avis, de donner des choses extrêmement ennuyeuses, des gens extrêmement formatés, comme si on pouvait considérer que tel individu est intelligent et un autre ne l'est pas. Ça dépend des critères qu'on emploie. Finalement, le QI n'est qu'une manière de mesurer l'intelligence. Il y a beaucoup de formes d'intelligence, hein, et en fonction du milieu dans lequel on se trouve, on est plus ou moins intelligent pour résoudre les problèmes auxquels on est soumis. Donc l'intelligence, c'est une notion qui est tout à fait discutable, et d'autre part, ça ne donne pas la part belle à des qualités qui, à mon avis, sont primordiales, comme l'imagination, par exemple. Comment voulez-vous trouver les gènes de l'imagination ? Bon, alors quelqu'un qui serait très fort en maths, mais qui n'aurait aucune imagination, je vois pas trop ce que ça peut donner, en l'occurrence.
Hein. Ouais, on se priverait d'énormément
de loisirs, de
talents,
d'artistes,
de variétés. Bref, ça nous fait un peu peur. Bébé à la carte, c'est le titre de votre livre, Jean-François Bouvet. Alors, moi, j'avais entendu parler d'une technique, je crois qu'on appelle ça une espèce de ciseau à ADN. Est-ce que ça rentre en ligne de compte pour, justement, ces manipulations génétiques ou ces recherches menées pour choisir l'embryon le plus intelligent ou choisir le sexe, que sais-je, la couleur des yeux ?
Alors oui, ça pourrait, mais c'est quelque chose de différent du simple tri génétique. Là, ouais. Il s'agit de modifier l'embryon en utilisant ce que vous appelez des ciseaux moléculaires. Donc c'est une technique, excusez-moi pour le mot compliqué, qui s'appelle CRISPR-Cas9. On en entend énormément parler à l'heure actuelle. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est des ciseaux moléculaires qui permettent d'éditer l'ADN exactement comme vous éditez un texte avec le traitement de texte de votre ordinateur.
On fait du montage, en fait.
Voilà, vous pouvez remplacer des lettres par d'autres lettres, donc vous pouvez modifier des gènes de manière extrêmement simple. Vous avez une partie qui reconnaît le gène à modifier, et vous avez une autre partie qui va découper ce gène, ce qui permet de le remplacer par une autre forme de ce gène.
Je remplace des yeux bruns par des yeux bleus ou l'inverse ?
Oui,
alors, par exemple.
Bon, sauf que pour les yeux, il n'y a pas un seul gène qui intervient,
c'est plus
mais
compliqué.
On pourrait imaginer que on arrive à ça. On peut modifier maintenant très facilement les gènes de n'importe quel organisme. Et ça, c'est depuis 2012 seulement. Donc on est rentré dans une époque où, pour la première fois, on peut intervenir dans le génome d'un individu avant même sa naissance. Et ça a été fait récemment, je pourrais vous le raconter plus en détail si vous le souhaitez.
Eh bien, vous avez fait une transition de rêve. À tout de suite, à la curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Bébé, dors.
Thomas Hugues.
Ah non, pas moi, hein, j'ai pas fait de bébé toute seule.
Non, il y avait Jérôme, mais vous allez voir que Goldman, Jean-Jacques Goldman, avait peut-être raison, parce qu'on en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais les femmes vont peut-être pouvoir se passer carrément des hommes.
Ouch, hein, même de leur sperme. Ça va faire mal. Oui. Un bébé sur mesure, c'est désormais possible, et c'est ce dont on parle avec vous, Jean-François Bouvet. Vous êtes biologiste, et on parlait de cette technique au nom barbare, CRISPR-Cas9, qui sert à découper l'ADN. Ce sont une sorte de ciseaux moléculaires. Et cette technique a été appliquée sur des animaux. Qu'est-ce qu'on leur a fait et pour quel résultat ?
Oui, alors cette technique, donc, alors, il faut dire CRISPR-Cas9, ça fait
Ça fait pas très. Oui, ça fait un peu novice là.
On apprend hein, grâce à vous.
Oui, ça a été utilisé sur des champignons. Ça a été utilisé. On a réussi à faire des champignons qui brunissent pas. Ça a été utilisé sur des animaux. Alors, je peux vous donner les exemples les plus étonnants. Là, c'est une équipe chinoise qui a fait ça, qui a modifié des chiens de race beagle pour faire des chiens bodybuildés avec des muscles énormes pour, par exemple, être utilisé dans la police. C'est ce que dit l'auteur. Donc, il a suffi de modifier un gène qui code pour une substance qui s'appelle la myostatine, qui contrôle le développement des muscles, chez l'humain aussi. Donc si vous inactivez ce gène, les muscles vont gonfler et se développer de manière tout à fait extraordinaire. Donc on voit des photos sur Internet de chiens bodybuildés, c'est assez affreux.
Plus besoin d'aller à la salle de gym pour faire de la gonflette pendant des années.
Vous en croisez souvent des chiens dans les salles de gym ?
Non, mais moi, j'applique ça à l'homme directement.
D'accord. Justement, ça a été appliqué à l'homme ?
Oui, alors à l'homme, depuis, et ça c'est vraiment la révolution à mon avis de la génétique, la plus importante depuis très très longtemps, c'est que depuis avril 2015, date de la première publication sur le sujet, on modifie des embryons humains en utilisant CRISPR-Cas9. Ça a été fait donc à la fois sur des embryons viables et sur des embryons non viables, en différents endroits du monde. Ça a été fait en Chine, ça a été fait aux États-Unis, la publication remonte à cet été, c'est très récent, et c'est en cours en Suède. Je vous donne un exemple. Par exemple, une équipe chinoise, c'était en 2016, si mes souvenirs sont bons, a réussi à modifier un embryon humain pour lui greffer en quelque sorte, entre guillemets, un gène de résistance au sida. Voilà un exemple de ce qu'on sait faire à l'heure actuelle.
Et il faut souvent s'attacher à la science-fiction, au roman ou en BD de science-fiction, parce qu'il y a de l'anticipation. Et moi, je me souviens d'une bande dessinée qui s'appelait Les Eaux de Mortelune, qui doit dater du début des années 90, où ils avaient imaginé justement comment des générations d'enfants qui avaient été modifiés génétiquement par des chercheurs fous devenaient finalement les rebuts de la société. Ils avaient deux têtes, ils avaient cinq bras, etc. etc. Ça pose la question des ratés, Jean-François Bouvet. Avec ce ciseau moléculaire, il y aura des ratés. On fait quoi des ratés ?
Oui, ça, il risque fort d'y avoir des ratés. Malheureusement, il y en a eu. Les différentes équipes qui ont travaillé là-dessus ont obtenu des résultats assez encourageants, il faut bien le dire, enfin encourageants sur le plan technique. Mais il y a eu aussi des choses inattendues. Par exemple, ce CRISPR est allé se loger à un endroit où il n'aurait pas dû se loger. Et donc, il peut avoir des modifications en des points non désirés de l'ADN. Et ça peut avoir des conséquences tout à fait ennuyeuses. Si, par exemple, vous agissez sur ce qu'on appelle un oncogène, c'est-à-dire un gène qui déclenche des cancers, vous risquez de l'activer sans l'avoir fait exprès. Et ça risque de n'apparaître que bien plus tard. Parce que si vous faites ça sur un embryon, eh bien, ce n'est peut-être qu'à l'âge adulte que vous pourrez voir des effets tout à fait inattendus. Donc, il y a pas mal de scientifiques qui sont farouchement opposés à ça. La France est opposée à ça en particulier. Il y a des scientifiques américains qui se sont exprimés très clairement dans deux revues prestigieuses pour dire qu'ils étaient absolument contre la modification du génome humain.
En France, c'est interdit ce que vous nous décrivez aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui, l'utilisation de ces ciseaux cellulaires, c'est interdit en France.
C'est interdit, oui, tout d'accord. À fait.
Jean-François Bouvet, vous publiez Bébé à la carte aux éditions Équateur Sciences, et on y lit notamment qu'il y a des projets scientifiques sur les humains encore plus fous, encore plus ambitieux ou tout autant. On pourra un jour affranchir les individus de leur sexe biologique. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que le fait que vous soyez homme ou femme ne va pas vous amener à faire automatiquement que des spermatozoïdes ou que des ovocytes. Dans un proche avenir, les femmes pourront faire des spermatozoïdes et les hommes des ovocytes.
Et on pourra fabriquer les deux aussi dans un même corps ?
Oui, tout à fait. Alors, ce ne sera pas à l'intérieur du corps. Si vous voulez, je peux vous expliquer en deux minutes comment ça marche. Ça passe par ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Les cellules souches sont des cellules qui se multiplient très facilement et elles sont pluripotentes si elles peuvent donner tous les types cellulaires de l'individu. Les neurones, les cellules cardiaques, etc. À partir de ces cellules souches, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, pour faire ces cellules souches, il suffit de prélever un petit morceau de peau. Vous allez leur faire subir un traitement particulier, je vais vite. Les ramener à l'état de cellules souches. Et c'est à partir de cellules souches, vous pouvez faire des spermatozoïdes. Ça a été fait déjà chez la souris. Et ça marche. On peut faire des spermatozoïdes donc à partir de la peau d'une femelle. Donc rien ne s'oppose à ce que dans un proche avenir, ça puisse exister pour les femmes. Et de la même manière, on pourra faire des ovocytes à partir de la peau des hommes.
Donc on peut faire un enfant tout seul ?
Absolument.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin même d'aller chercher le sperme d'un donneur.
Pour être enceinte.
Pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que tout seul, au sens... deux femmes pourront faire un bébé toute seule, plutôt, disons. Puisqu'elles pourront... Il y en a une qui pourra faire des spermatozoïdes à partir de sa peau, et l'autre qui fournira les ovocytes.
Et peut-être même qu'elles n'auront plus besoin, dans ce monde que le futur nous prépare et qui nous fait un peu peur, quand même, il faut dire les choses, de porter ce bébé utérus artificiel. C'est ce qu'on vous raconte dans une minute sur RTL.
La fabrication, la conception des bébés du futur, c'est ce qu'on vous révèle dans La Curiosité avec le biologiste Jean-François Bouvet. Alors bientôt, les femmes n'auront plus besoin des hommes pour faire des bébés. Mais quelle histoire ? Comment c'est possible ?
Alors ça rejoint ce qu'on disait il y a un instant sur les cellules souches. Donc, avec les cellules souches, on peut déjà maintenant faire ce qu'on appelle des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovocytes. Mais maintenant, l'étape suivante, ça risque d'être dans les décennies qui viennent, se passer d'utérus. Il s'agit donc d'utérus artificiel en l'occurrence, et c'est un vieux rêve qu'on a vu dans Le Meilleur des Mondes, enfin un rêve si on peut dire, puisque c'est plutôt un cauchemar en l'occurrence. Où on en est de ce côté-là ? Eh bien, les choses avancent. Pour bien comprendre le problème, si on prend le développement du bébé humain, donc ça dure 40 semaines. On considère qu'un prématuré est viable à peu près à 24 semaines, 22 à 24, disons 24. Le problème, c'est de lui faire atteindre le stade des 24 semaines à l'embryon, de faire atteindre l'embryon le stade des 24 semaines. Et on attaque aussi le problème par l'autre bout, c'est-à-dire qu'on essaye à l'heure actuelle de faire se développer des embryons dans un dispositif expérimental depuis la fécondation jusqu'à 2 et peut-être très bientôt 3 voire 4 semaines. Donc en fait,
ça ressemble à quoi ? C'est une cuve
Ça ressemble plutôt à une petite cuve ou une petite cuve mais minuscule, parce qu'il faut voir qu'un embryon à ce stade c'est minusculissime. Hein. Donc ça, on sait le faire. Il y a des scientifiques qui demandent à l'heure actuelle de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de faire du développement d'embryons au-delà de 2 semaines. Pour le moment, la limite est fixée à 2 semaines dans les pays anglo-saxons en particulier. Alors, à l'autre bout, il y a eu récemment une publication de chercheurs qui ont réussi à faire se développer un fœtus d'agneau à un stade qui est équivalent à peu près à 22 semaines chez le bébé. Ils ont réussi à le faire se développer dans une espèce de sac clos, dans un liquide, hein, en branchant ce fœtus d'agneau sur une machine qui fait office de placenta. Donc, vous avez des tuyaux qui amènent l'oxygène, d'autres qui évacuent les déchets, et ils ont réussi donc à faire ça. Donc on a déjà une ébauche d'utérus artificiel pour les derniers stades du développement. C'est déjà dans les tuyaux, si je puis dire.
Les secrets des bébés à la carte, c'est à lire aux éditions Équateur Science. Merci beaucoup Jean-François Bouvet, à bientôt micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.